Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le fonctionnement de la machine diplomatique des papes est généralement assez méconnu, particulièrement et par définition lorsque celui-ci est secret. L'expertise du Vatican dans la médiation internationale et le rôle diplomatique que tient le plus petit État du monde, capable du haut de ses 44 hectares de s'affirmer comme un acteur majeur de la géopolitique internationale, n'en sont pas moins réels. On a en mémoire le succès de Jean XXIII dans la crise des missiles à Cuba en 1962, plus récemment celui du rapprochement entre Washington et la Havane, finalement mise à mal par la présidence Trump. Et l'on sait les difficultés que connaît cette machine diplomatique aujourd'hui, que ce soit avec le Venezuela ou la Chine, avec toutefois quelques progrès à souligner concernant cette dernière sur le dossier religieux. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques officielles avec 183 États. Seuls certains pays musulmans, la Corée du Nord ou la Chine s'y refusent. De tout temps, le Saint-Siège a été la cible de services secrets étrangers, persuadés que le Vatican dispose d'un réseau sans équivalent. Pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, Rome a été un véritable nid d'espions de toute nationalité. Mais le Vatican n'a officiellement pas de service d'espionnage. Reste que la chute du communisme a marqué la victoire de Jean-Paul II, le pape dont on sait qu'il s'est le plus impliqué dans des opérations secrètes et que l'Église n'est pas à l'abri d'affrontements souterrains opposant certains groupes en son sein. Regard avec nos invités, Constance Colonna Cesari, journaliste, réalisatrice, spécialiste de la diplomatie du Vatican et auteur de « Dans les secrets de la diplomatie vaticane » aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Et Yvonique Denoël, historien et éditeur, spécialiste du renseignement qui vient de publier « Les espions du Vatican » aux éditions Nouveau Monde. Bonjour.
Bonjour.
Vous dessinez, Yvonique Denoël, dans votre ouvrage « Une autre histoire de la papauté contemporaine » et racontez 80 ans de guerres secrètes et de coups tordus, l'infiltration de prêtres russophones en Union soviétique sous Staline, presque tous démasqués par le KGB, les négociations secrètes menées par Jean XXIII avec Khrouchtchev par des intermédiaires peu conventionnels, les relations étroites du cardinal Montini, futur Paul VI avec la CIA, l'infiltration agressive du Vatican par les différents services du bloc de l'Est, les fonds secrets de la Banque du Vatican destinés à combattre le communisme. L'influence du Vatican et l'importance de sa diplomatie sont finalement assez méconnues alors qu'elles remontent loin dans le temps. Vous parlez du Vatican comme d'une puissance originale dans le monde du renseignement. De quoi est-il question, Yvonique Denoël ?
Eh bien, effectivement, pour qui, comme moi, connaît un peu l'univers des services de renseignement, le Vatican est assez déroutant parce qu'il affirme ne pas avoir de services secrets et c'est vrai. Pour autant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de service secret qu'on ne s'y occupe pas du tout de renseignement. D'abord, comme vous l'avez dit, le Vatican, qui est un objet de fantasme extraordinaire pour beaucoup de chefs d'État, a été énormément espionné au XXe siècle. Et il lui a donc fallu se défendre contre des poses de micro, des recrutements au sein du personnel et même au sein des prélats. Donc cet espionnage, il a bien fallu le combattre. Et le Vatican s'est également engagé dans la guerre froide contre le communisme, d'abord en envoyant des prêtres clandestins en URSS avec un insuccès total, il faut bien le dire, et ensuite sous Jean-Paul II en développant une politique beaucoup plus habile. Il faut dire que Jean-Paul II avait été à bonne école puisqu'il a grandi, il a été formé en quelque sorte par les services secrets de l'Est, c'est-à-dire qu'avant de devenir pape, il a tout simplement appris à déjouer la surveillance des services secrets et à opérer dans l'ombre. Donc il a lui-même organisé, avec quelques dizaines de prélats de confiance, des actions clandestines de soutien à Solidarité, envoi d'argent, envoi de matériel.
On est en Pologne là, hein, puisqu'on n'a pas encore mentionné ce pays.
On est en Pologne et il a fait lui-même office d'officier traitant avec la CIA. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est vraiment le pape qui a géré de très près ces affaires-là. Après lui, il y a une sorte de décrue des questions de renseignement qui ne sont pas pour autant absentes. Et parfois, quand le Vatican ne s'occupe pas de renseignement, eh bien, il lui arrive de le payer très cher et de commettre des erreurs.
Un commentaire, Constance Colonna, sur ce qui a été dit jusqu'à présent.
Alors, moi, d'abord, vraiment, je souligne tout l'intérêt de ce livre parce qu'on apprend plein de choses à toutes les époques, de Pie XII à François, donc c'est très riche. C'est vrai que État, original s'il en est, singulier, le Vatican, à la fois puissance spirituelle et état temporel, qui a, comme tout état, des intérêts à défendre et qui menace certains intérêts. Donc, il y a un leadership, il y a un soft power de cet état qui s'exprime par la figure du pape. Évidemment, ça va attirer à la fois des intentions de lobbying, donc aussi d'espionnage de la part d'autres puissances, et le Vatican lui-même pour assurer la pénétration des idées et l'adhésion des idées qui sont les siennes, va devoir influencer. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on appelle espionnage, renseignement, influence, on voit bien l'ambiguïté. Donc évidemment, oui, le Vatican espionne et est espionné en permanence. Il y a des moments très particuliers où ça apparaît, j'allais dire, plus facilement au grand jour, d'autres moments où personne n'en sait rien, mais ça existe sur toute la durée depuis tout ce XXe siècle.
Alors la question qui me vient évidemment, c'est qui fait du renseignement ? On peut rappeler, Yvonique de Noël, que finalement, tout le monde peut faire du renseignement, quel qu'il soit. Alors ce sont tous les prêtres envoyés de par le monde. Vous soulignez que, et vous l'évoquez à l'instant en parlant des prêtres clandestins envoyés en URSS avec l'insuccès qui a été le leur, est-ce que c'est pour certains un manque total de professionnalisme ?
Alors, effectivement, traditionnellement, on attribue aux jésuites une action singulière sur les questions de renseignement, et c'est vrai notamment dans l'entre-deux-guerres. C'est un peu les jésuites qui sont réputés être les fers de lance de cette action contre l'internationale communiste. Après, effectivement, tout le monde peut faire du renseignement. Les nonces apostoliques, par définition,
les ambassadeurs, dans chaque
pays, sont des ambassadeurs, mais ils recueillent également beaucoup d'informations par la capillarité de l'Église sur place. Les missionnaires sont également des agents de renseignement de facto. On le voit par exemple en Chine, où ils sont combattus à partir de 1949 par le pouvoir communiste de manière extrêmement féroce. Et puis, vous avez des émissaires plus ou moins secrets du pape ou de la secrétaire d'État qui sont envoyés soit pour porter des messages, soit pour aller prendre la température, soit pour aller constater eux-mêmes sur place une situation difficile et ramener l'information. Et puis après, vous avez un peu des gens qui se spécialisent au sein du Vatican, c'est-à-dire, par exemple, il y a une figure qui m'a beaucoup fasciné, qui est le père Graham, qui est à la fois un historien et en même temps qui est une sorte de contre-espion, c'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, ça a été un de ceux qui ont mené les enquêtes, c'est-à-dire quand il y avait des soupçons au sein du Vatican. Par exemple, un jour, l'assistant de Montini, qui n'était pas encore Paul VI, mais qui était un des sous-secrétaires d'État sous Pie XII, eh bien, a été pris la main dans le sac en train de recopier des documents qui étaient dans le coffre de son patron, et il travaillait pour un service communiste. Donc voilà, vous avez des figures au sein du Vatican qui, tout en gardant un rôle religieux, sont sollicités régulièrement pour des missions de contre-espionnage ou des missions de renseignement.
Là aussi, Constance Colonna, Césarie, un commentaire ?
Oui, en fait, tout est dit dans ce mot qu'on emploie de renseignement, parce que en matière de renseignement, de capacité de se renseigner, de documenter l'état du monde, l'Église catholique est championne, j'allais dire. Moi, je me souviens, dans les années 80, j'avais fait un stage à Radio Vatican, et j'étais dans une salle de Télex de Radio Vatican, et il y avait en permanence 30 à 50 Télex qui défilaient jour et nuit de tous les endroits du monde. À l'époque, dans les rédactions en France, il y avait trois rouleaux de dépêches, l'AP, l'AFP, Reuters, basta. Donc, cette capacité de recueillir en temps réel tout ce qui se fait exactement, alors de façon horizontale dans le monde, partout, mais aussi verticale, parce que en effet, le nonce apostolique, il dîne le soir avec le chef d'État, et que parallèlement, au même moment, la religieuse en brousse, elle va vacciner l'enfant, la femme. Donc elle sait s'il y a eu des viols, s'il y a eu des... On sait tout en temps réel. Donc cette capacité de renseignement, toute cette info qui arrive à Rome, alors certaines se perdent en chemin, mais en tous les cas, elle est extrêmement réputé, d'une grande fiabilité. Partout dans le monde, y compris à l'ONU, quand l'observateur du Vatican fait son speech, je vous assure qu'on n'écoute pas ça comme si c'était un petit laïus. Tout le monde est présent, parce que également, il faut le souligner, ce sont des gens extrêmement bien formés, qui parlent toutes les langues, qui sont issus de toutes les nationalités, des gens qui cohabitent entre eux, donc qui ont une ouverture, une compréhension des cultures de l'autre, finalement. Donc voilà, c'est un renseignement qui est sans équivalent pour moi dans le monde, et ça, je l'ai constaté à bien des occasions.
C'est cela, un réseau finalement diplomatique sans équivalent, et avec cette présence sur le terrain qui permet d'avoir une connaissance très proche de la réalité des choses. Est-ce que la diplomatie du pape François est dans la continuité ou la rupture de ses prédécesseurs, Yvonique de Noël ?
Alors, il me semble que en matière de diplomatie, le Vatican ne raisonne pas en mois, ne raisonne pas en années, raisonne au minimum en décennies et parfois en siècles. Ce qui veut dire que, primo, face à l'événement qui fait irruption, il y a toujours une extrême prudence, c'est-à-dire qu'on réagit pas forcément sur le moment, on évite de prendre des virages. On essaye de replacer l'événement dans le cadre d'une stratégie de long terme. Pour vous donner un exemple concret sur la Chine, il y a une stratégie de rapprochement avec la Chine après une période très difficile qui a été initiée sous Jean-Paul II, poursuivie sous Benoît XVI, mais où il y a eu des petits désagréments en cours de route, et qui trouve un début d'aboutissement sous François. Et lorsque survient un incident, par exemple, je raconte que fin 2019, des hackers chinois ont piraté le Vatican. Bon, avec la plupart des pays, ça aurait des conséquences difficiles si on était en train de négocier quelque chose. Or là, justement, le Vatican a complètement ignorer la chose. Enfin, ils n'ont pas ignoré que ça avait lieu, ils savaient très bien ce qui se passait, mais ils ont choisi de ne pas réagir et de ne pas compromettre les discussions qui étaient en cours.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, vous allez sûrement conforter ce que vient de dire Yvonique de Noël. On peut juste rappeler, je vous laisse la parole tout de suite, Constance Colonna Cesari, parmi les grandes priorités du Saint-Siège, le dossier chinois, qui est difficile à gérer en raison du contrôle strict que Pékin exerce sur les religions. Il y a eu un accord sur la nomination des évêques signé en 2018 entre le Vatican et le gouvernement chinois. À Rome, la relation avec la République populaire est une priorité.
Oui, oui, oui. Là, vraiment, d'ailleurs, on voit, j'allais dire, tous les sacrifices que ça représente, parce qu'il y a des attaques très vives. Hein. Ces accords, ils sont extrêmement controversés. Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État, de l'ancien président Trump, avait écrit un tweet qui disait que l'Église ne devait plus être considérée comme une puissance morale. À partir du moment où elle signait de tels accords avec un tel État, avec un tel régime, le Parti communiste chinois, évidemment, sur fond des événements, les Ouïghours, Hong Kong, donc c'est vrai que ces affaires que suscite le régime chinois desservent le Vatican, et en plus le monde en entend parler, parce que cette campagne sur le génocide ouïghour, elle émane aussi des Américains. C'est une bonne campagne, dira-t-on, nous, d'un point de vue de Français, mais peut-être orchestrée pour de mauvaises raisons. Là encore, c'est les intérêts d'une autre puissance. En tous les cas, cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine, elle existe. Donc le pape se trouve pris dans cet engrenage, attaqué par les Américains, mais il l'est aussi attaqué par sa propre Église, parce qu'il n'y a pas de pire adversaire de ces accords que, par exemple, le cardinal Zen, l'ancien archevêque de Hong Kong. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la vision, parce que là aussi, c'est selon comment on interprète ces accords. Donc, le Vatican, si on reprend pour les auditeurs, veut régler la situation de la nomination des évêques en Chine. Évêques de l'Église catholique patriotique chinoise, c'est-à-dire évêques qui sont schismatiques finalement, puisqu'ils sont nommés par le Parti communiste, alors que la règle dans l'Église, c'est que ce soit le pape qui nomme ses évêques. Donc le Vatican veut en finir avec cette division, avec d'un côté cette Église qui est pas crédible, hein, si on part du droit canon, et puis l'autre qui reste fidèle à Rome, dont le pape justement nomme les évêques, qui est l'Église clandestine, qui continue d'être persécutée. Donc le cardinal Zen, il est pas d'accord justement avec ces accords, parce qu'il dit mais on sacrifie l'Église clandestine, alors qu'elle est restée fidèle à Rome, sur l'autel d'un rapprochement diplomatique avec un État. Donc c'est extrêmement contesté, et ce cardinal Zen, il dit justement, sous Benoît XVI, donc vous faisiez allusion tout à l'heure à la lettre aux catholiques chinois, on avait créé, Benoît XVI avait créé une commission qui se réunissait tous les 6 mois, et là le cardinal Zen dit à propos de François, j'écris à Rome, le pape François n'ouvre même pas mes lettres. Donc eux attaquent pour trahison, voilà. Ces accords, c'est de la réelle politique, en effet.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors la question de la relation entre le Vatican et les États-Unis a toujours été quelque chose de très compliqué, puisque le cheval de bataille du Vatican, c'était de lutter contre le communisme, ce que faisaient aussi les Américains. Il y a eu des rapprochements, voire soumissions peut-être vis-à-vis de la CIA. Enfin, en tout cas, et on peut peut-être imaginer aujourd'hui également que le pape François soit une sorte de médiateur dans cette guerre à laquelle se livrent Américains et Chinois, Yvonique de Noël.
Alors effectivement, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que le Vatican a amorcé un rapprochement assez spectaculaire avec les États-Unis. Et l'homme clé de ce rapprochement était un très proche de Pie XII, à savoir l'archevêque de New York, Spellman, qui a été à la fois l'homme clé des relations diplomatiques entre le Vatican et les États-Unis, le grand argentier. Parce que c'est quelqu'un qui avait un talent extraordinaire pour lever des fonds de toute provenance imaginable. Enfin, en lui-même, c'est un personnage extrêmement romanesque. Et également l'homme des services secrets américains auprès du Vatican. Il est aumônier des armées américaines. Pendant la guerre, il se balade partout, dans un avion de l'armée, avec des sacs d'argent, avec... Enfin, c'est un personnage assez incroyable. Ce rapprochement, qui était un rapprochement d'intérêt pour le Vatican, a perduré après la guerre parce qu'il y avait un intérêt commun extrêmement fort qui était la lutte anticommuniste. Et donc, de facto, la CIA avait ses entrées au Vatican. Il y a une blague qui dit les cardinaux de droite informent la CIA, les cardinaux de gauche informent les services secrets de l'Est, ceux du centre informent les services secrets français, mais personne n'informe les services italiens. Bon, et il y a une part de vrai là-dedans. Donc, il y a eu un compagnonnage qui a été un petit peu mis sur pause sous Jean XXIII, qui a dit « moi, je voudrais... l'affrontement frontal n'a pas marché, on n'a rien obtenu, donc je voudrais essayer autre chose et amorcer une détente avec Khrouchtchev ». Donc là, la CIA a été très fâchée et a considéré que c'était un dangereux gauchiste. Et puis, sous Paul VI, il y a eu un rééquilibrage. Paul VI étant à la fois conscient qu'il fallait travailler avec la CIA, mais en même temps disant « oui, mais arrêtez d'essayer de recruter tous nos cardinaux et tous nos évêques. Ça ne doit pas marcher comme ça. C'est une collaboration entre égaux. On n'est pas juste là pour vous nourrir, vous donner de l'information. On doit avoir une véritable collaboration. » Et ça se renverse de manière assez stupéfiante sous Jean-Paul II. C'est-à-dire que les patrons de la CIA défilent chez Jean-Paul II et sont comme des petits garçons devant lui. C'est-à-dire qu'il les impressionne terriblement. Donc on lui apporte des dossiers de renseignement, on lui apporte des cartes, des photos satellites de la Pologne. On lui dit, voilà, les divisions soviétiques, elles sont massées là, 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 etc. Donc il reçoit énormément d'infos et on considère que c'est lui le patron de la lutte anticommuniste à l'Est. Donc il y a une espèce de renversement assez incroyable de la relation à cette époque-là. Et alors, une fois que le communisme est tombé, c'est terminé. C'est-à-dire au moment de la guerre en Irak, on n'écoute plus le pape. C'est-à-dire qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on reprend la bonne vieille hiérarchie.
On n'écoute plus le pape. Alors précisément, on parlera en démarrant la deuxième partie de l'émission de la question de Cuba avec vous, Constance Colonna Cesari, parce que lutte contre le communisme jusqu'à un certain point, et puis précisément, c'est grâce au pape que La Havane et Washington se sont mis à se parler. Géopolitique, on vous retrouve, Yannick de Noël et Constance Colonna Cesari, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la diplomatie du Vatican, nous retrouvons nos invités, Constance Colonna Cesari, journaliste, réalisatrice, spécialiste de la diplomatie du Vatican et auteure de Dans les secrets de la diplomatie vaticane, paru aux éditions du Seuil, et Yvonique De Noël, historien et éditeur spécialiste du renseignement, qui vient de publier Les espions du Vatican aux éditions Nouveau Monde. Constance Colonna Cesari, on a évoqué à la fin de la première partie de l'émission les relations assez compliquées, somme toute, entre le Vatican et les États-Unis sur fond de renseignements, avec là aussi, dans certaines circonstances, une sorte de soumission du Vatican à la CIA et parfois le contraire. Dans la lutte contre le communisme, le Vatican a-t-il été inféodé aux Américains? Je pense qu'Yvonique De Noël y a répondu dans la première partie de l'émission. Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation États-Unis-Vatican à l'image du rapprochement entre La Havane et Cuba? Rapprochement qui a été mis en délicatesse sous la présidence de Trump.
Alors justement, c'est intéressant parce que vous rappeliez à l'instant, donc cette relation entre Rome et Washington, elle se fonde au départ, et d'ailleurs ça va permettre des rapprochements œcuméniques de l'Église catholique qui prend le train en marche hein, avec des protestants. C'est le moment où s'opère le Conseil œcuménique des Églises pour lutter contre le communisme, pour aussi favoriser la construction de l'Europe. Hein, ça, c'est très important. Le traité de Rome ne s'appelle pas par hasard le traité de Rome. Donc, Pie XII l'a voulu, ce traité de Rome, pour aider l'Allemagne vaincue à sortir de sa situation. Et toujours, hein, depuis le début, au nom de l'anticommunisme. Le communisme, cet ennemi intrinsèquement pervers de l'Église, comme le qualifiait si bien Pie XI, qu'on va finalement enterrer en 1989, hein, à la grande satisfaction de l'Église. Mais donc, c'est ça qui fait que Rome et Washington se retrouvent soudés à l'après-guerre et agissent ensemble. Et puis, on arrive aux années que vous avez évoquées, Jean-Paul II et Reagan, où là, il se passe ce que nous, les journalistes, on a appelé la Sainte Alliance, entre deux hommes qui veulent terrasser le communisme, non pas seulement à l'Est, mais aussi dans ce que les Américains appellent leur sous-continent, donc l'Amérique latine. La théologie de la libération qu'ils considèrent comme du marxisme ecclésial et qui effectivement reçoit des subsides, hein, ces guérillas latino-américaines, ces théologiens de la libération, ils entraînent évidemment des soutiens financiers, militaires, etc. de l'URSS. Donc tout ça fabrique un terrain pour lequel Reagan a intérêt à s'entendre avec le pape Jean-Paul II. Tous deux s'estiment en plus rescapés, miraculés. Il y a une espèce de rencontre mystique entre les deux hommes, et ça favorise cet accord et le rétablissement des relations diplomatiques entre Rome et Washington en 1984. Et finalement, donc là on voit le parti républicain et ce pape polonais s'entendent sur la base et avec l'aide de la CIA pour abolir le communisme à l'Est et en Amérique latine. Et puis tout ça s'achève à Saint-Domingue, lors de la conférence des évêques latino-américains, puisque en 92, à Saint-Domingue, on comprend que l'option préférentielle aux pauvres, cette église de base des théologiens de la libération, ne fait plus peur à quiconque. On est en 92, le communisme est mort. Et donc là, tout ce qui faisait ce pacte commun s'arrête. Et finalement, on va opérer un renversement lorsque François et Barack Obama se rencontre, où là, justement, c'est un président démocrate en fin de mandat qui rencontre pour la première fois un pape latino-américain, qui là a mis clairement l'Amérique latine dans la priorité de la diplomatie du Vatican, alors que le Proche-Orient, par exemple, c'est des constantes de la diplomatie du Vatican. C'est pas un pape qui infléchit, mais là, l'Amérique latine, si. Et donc, ça va révolutionner cette entente, cette relation avec cette fois un parti démocrate et fabriquer le pacte de Cuba.
Qui s'est faite sur la base de rencontres secrètes, il y a eu beaucoup de choses, mais et pour poursuivre sur la question de la théologie de la libération, on peut dire que pour l'Église catholique, cette négation de la théologie de la libération lui a coûté cher. Quand on voit après ça le succès qu'ont eu les églises évangéliques en Amérique latine, c'est un prix lourd pour l'Église catholique que cette lutte contre le communisme.
Oui, finalement, est-ce que l'histoire donnera raison à cette lutte acharnée, à cette volonté d'affaiblir cette option préférentielle au peuple. Comment on a finalement casser, diviser, éloigner tous ces prêtres brésiliens, par exemple, ces séminaires à Recife, des gens comme Dom Helder Camara qui disait « Quand je donne du pain aux pauvres, je suis un saint. Quand je demande pourquoi les pauvres ont faim, je suis un communiste. » Si on raisonne et si on écoute ces phrases, évidemment qu'elles étaient très fortes. Et cette théologie de la libération, elle aurait dû être récupérée par l'Église au lieu d'être combattue comme le faisait Jean-Paul II et toute la droite de l'Église, l'Opus Dei, etc.
Alors justement, l'Opus Dei, on va en parler avec vous, Yvonique de Noël. La force du Saint-Siège, on peut dire que... dans l'absolu, ou en tout cas, oui, dans une idée très généreuse, c'est un certain désintéressement. Après ça, on va comprendre que c'est pas forcément tout à fait exact. En tout cas, dans ces prises de position ou dans ces actions, il n'y a pas de vente d'armes à la clé, contrairement à d'autres... Quoique, ah, je vous vois... Bon, alors c'est moi qui suis très naïve. J'allais dire aussi, ni d'appui électoral, ni de marchés commerciaux. Ça n'empêche pas l'affairisme, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, vous faites des révélations à propos de l'Opus Dei que mentionnait à l'instant Constance Colonna, qui est tout de même une, alors je ne sais pas comment l'appeler, un mouvement, une institution, en tout cas qui a émergé de façon très rapide au sein de l'Église et qui a d'une certaine manière un peu surpris. Vous avez évoqué le rôle des jésuites. L'Opus Dei donc fait une entrée assez fracassante et puis entre en concurrence avec les jésuites. La question qui se pose est de savoir si c'est une concurrence qui a été bénéfique ou plutôt néfaste pour l'Église. En tout cas, vous faites des révélations à propos de l'Opus Dei et de la France. Et là, j'apprends que l'organisation a été la pompe à finances pour le parti giscardien des Républicains indépendants. Il n'avait pas accès aux mêmes sponsors que le parti gaulliste. Et ça a été une des sources de financement pour lancer Giscard d'Estaing politiquement, Yvonique de Noël.
Oui, alors effectivement, l'Opus Dei est une organisation qui est devenue une prélature personnelle au début du pontificat de Jean-Paul II. Alors on a beaucoup glosé pour savoir si l'Opus Dei avait poussé la candidature de Jean-Paul II. Je pense que Wojtyla a accepté toutes les bonnes volontés sans forcément se sentir obligé. S'il a accordé le statut de prélature, qui était quelque chose de très important à l'Opus Dei, c'est qu'il y voyait d'abord et avant tout l'intérêt d'avoir une armée prête à lutter contre le communisme. Je pense que c'est comme ça qu'ils se sont marketés, si vous me passez l'expression. Donc effectivement, l'Opus Dei se distingue, d'abord ce sont avant tout des laïcs, et c'est une organisation qui recrute de manière très élitiste, qui veut s'implanter dans les milieux d'affaires, donc qui recrute dans les universités, les business schools, beaucoup au départ dans le monde hispanique, donc en Espagne et en Amérique latine, et effectivement, on trouve beaucoup d'affaires politico-financière dans lesquelles l'Opus Dei apparaît. Ça, c'est quelque chose d'assez factuel. Et donc, effectivement, il y a eu des affaires, alors qui sont d'une grande complexité que j'essaye de raconter dans le livre, en Espagne, au début des années 70. En gros, le régime franquiste a intégré en son sein pas mal de ministres de l'Opus Dei qui sont censés être des bons gestionnaires par opposition aux franquistes, on va dire, historiques qui sont censés être des militaires un peu bornés. Et du coup, Franco, vers la fin de sa vie, a beaucoup ouvert les portes à l'Opus Dei. Mais on a eu aussi beaucoup d'affaires politico-financières et de détournements d'argent de grands groupes financiers espagnols et également d'attribution de subventions qui se sont trouvées détournées. Et l'une de ces subventions, c'est l'affaire dite de la Matesa, qui est sortie au début des années 70. Donc une compagnie qui fabriquait des machines à tisser censément révolutionnaires, eh bien, on a de l'argent qui arrive tout d'un coup via une société créée par un proche de Valéry Giscard d'Estaing et qui va effectivement abonder les caisses du parti giscardien. Alors, on est sur une période extrêmement sensible puisque entre 72 et 74, c'est l'envol politique de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y a eu pas mal d'argent comme ça qui a été injecté par l'intermédiaire de Gabriel de Breuil. Gabriel de Breuil, qui, ancien ministre, sera assassiné quelques années plus tard à Paris dans des conditions qui sont restées encore inexpliquées aujourd'hui. Et alors, il y a plusieurs affaires et plusieurs affaires dans lesquelles des gens meurent de mort violente. Donc, je renvoie au livre, je ne peux pas tout développer ici. Mais ça va jusqu'au début des années 80 avec une affaire dont certains se souviennent peut-être, qui est l'affaire des avions renifleurs. Et là aussi, pour faire très simple, des inventeurs ont prétendu avoir trouvé le moyen de détecter des nappes de pétrole depuis un avion. Alors, c'était complètement fantaisiste, mais c'est allé très très loin. et la société Elf a dépensé beaucoup d'argent. Et là aussi, on voit apparaître dans cette histoire des gens de l'Opus Dei qui sont présents lors des négociations et lors des signatures de contrats. Et on voit de l'argent qui part au Panama dans des sociétés créées. Enfin, c'est extrêmement trouble, trouble. Et on se demande si effectivement toutes ces sommes déboursées par Elf dans l'affaire des avions Renifleur n'ont pas servi en quelque sorte à rembourser ce qui avait été envoyé depuis l'Espagne au début des années 70 pour le parti giscardien. Ce n'est qu'une hypothèse parce qu'évidemment, je pense qu'on n'aura jamais les preuves sur un dossier comme celui-là.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
En tout cas, Constance Colonna Césari, ça semble assez surréaliste, mais les affaires financières et les scandales financiers ont émaillé la vie du Vatican au siècle dernier et peut-être aujourd'hui encore.
Ah, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a eu cette récente affaire Béchou. En fait, ça n'arrête pas. Spellman, qui commence à boursicoter, comme savent le faire les Américains, et qui, au moment où le Vatican récupère aussi la restitution, la compensation de l'État italien, la compensation financière au moment où on signe les accords de Latran qui restituent à l'Église le territoire qu'elle a perdu en 1870, mais aussi justement une compensation financière. Là, il faut bien commencer à faire quelque chose de cet argent. C'est là que Spellman commence à intervenir et à avoir les cordons de la bourse en bon américain, parce qu'il sait faire, donc il forme un petit peu son monde. On arrive très vite à Marcinkus, donc Marcinkus, catastrophe, alliance, P2, loge P2, mafia, Sindona, ça finit très mal, le crack du Banco Ambrosiano, le suicide, entre guillemets, de Roberto Calvi sous le Blackfriars Bridge à Londres en 82, donc des affaires épouvantables, des chèques que fait le Vatican pour réparer. Et finalement, cette banque vaticane, ces instances financières de l'Église, elles ne vont pas mieux après le scandale Marcinkus. C'est ça qu'il y a de terrible. C'est que on commence à s'en occuper à partir de Benoît XVI seulement, qui se met...
Prédécesseur de l'actuel pape,
qui d'ailleurs, alors après il y a les histoires, on nomme ce fameux Gotti Tedeschi, quelqu'un de l'Opus Dei, justement, à la tête de l'IOR, qui va démissionner dans des conditions abracadabrantesques. En fait, tout est abracadabrantesque au Vatican, et ça va jusqu'à l'affaire récente du cardinal Béchou. Ce sont des feuilletons qui n'arrivent qu'au Vatican. Ce cardinal, c'était le numéro 3 du Vatican, il avait été substitut de la secrétaire d'État, et c'est là que les affaires opaques dont on l'accuse avaient commencé, parce qu'il y a une caisse noire à la secrétaire d'État, ce qu'on sait évidemment depuis très longtemps, mais ce que révèle encore l'affaire Béchou. Et donc, il est rétrogradé dans une congrégation pour la cause des saints, parce que déjà, on le suspecte. Et finalement, en octobre 2020, après une réunion de travail, le pape le déclasse. Il n'est plus cardinal du jour au lendemain parce qu'il a fait des placements risqués, interdits, puisqu'en plus, il a placé l'argent de la collecte des œuvres charitables de l'Église. Donc il n'a pas le droit, ça doit être dépensé dans l'année pour les miséreux. Donc il y a ça, il en a fait bénéficier l'entreprise de son frère en Sardaigne. Et puis il y a encore des couches et des couches d'interprétation. Il aurait pu notamment acheter, avec cette caisse noire de la secrétaire d'État, des fausses victimes qui accuseraient le cardinal Spell, qui est le monsieur l'opération main propre financière nommée par le pape pour justement lutter contre les dérives de cette finance vaticane qui restait opaque. Donc vous voyez, on n'en finit jamais. C'est des scandales, des complots, des affaires qui ne cessent d'éclater depuis l'après-guerre.
Tout ça, juste pour préciser, en fait, c'est pour comprendre, parce que les gens se disent, mais pourquoi on n'y met pas un terme? Eh bien, tout ça, c'est un héritage de la guerre froide. C'est-à-dire qu'à un moment, sous l'archevêque Marcinkus, qui était le patron de la Banque du Vatican, on a dévoyé l'objet de la Banque du Vatican pour en faire une blanchisseuse. d'évasion fiscale pour des riches italiens, mais surtout une blanchisseuse pour la mafia italienne. Et donc on a mis en marche une machine infernale qui produisait beaucoup d'argent, des fonds secrets qui servaient pour les opérations à l'Est. Le problème, c'est que même si, à partir de 89, Jean-Paul II, qui savait très bien ce qu'il en était, mais qui préférait avoir un Marcinkus fidèle qui lui ramenait des fonds secrets, à partir de 89, il dit « bon, ben, j'en ai plus besoin, donc on va l'enlever ». Mais c'est pas pour autant que ça s'arrête. C'est-à-dire que l'affairisme a été installé au sein de la Banque du Vatican et ça continue tout seul. C'est-à-dire que la machine est une machine folle et qu'il faut plusieurs papes pour arriver à y mettre un terme. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs coups d'arrêt qui ont été donnés sous Benoît XVI et particulièrement sous François, qui a été très très opiniâtre par rapport à ça, mais on n'est même pas sûr que ce soit fini. Le cadavre bouge encore.
Absolument. En tout cas, pas de désintéressement.
Alors, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Parce que, en effet, il y a de la corruption. Il y a de l'intérêt. Il y a cette culture. L'anticommunisme, c'est la base, c'est la clé de lecture, et ça a fabriqué, en effet, ces dérives financières, puisque pour Jean-Paul II, peu importait d'où provenait de l'argent, il avait besoin de l'argent, il avait besoin de nourrir sa croisade anticommunisme à l'Est et en Amérique centrale. Et en effet, ça a perduré.
Alors, malheureusement, le temps tourne, on aurait dû faire un week-end entier sur les questions vaticanes. Yvonique de Noël, vous soulignez dans votre ouvrage Les espions du Vatican que les défaillances du renseignement du Vatican ont été criantes dans deux dossiers qui ont marqué les années 1990. Le premier, la pédophilie dans l'Église nord-américaine, Jean-Paul II, blocage psychologique sur le sujet, nécessité de se replacer dans le contexte d'avant 1989 tout de même aussi, pendant lequel les rumeurs de pédophilie et d'homosexualité étaient couramment utilisées par les services secrets polonais pour discréditer les opposants au régime. Jean-Paul II n'a pas voulu croire aux rumeurs. Deuxième dossier, le Rwanda. Vous parlez d'honneurs saccagés de l'Église, avec une implication donc de l'Église dans le génocide rwandais, qui est assez méconnu d'une majorité de catholiques, mais qui a eu en Afrique des effets dévastateurs. Ce qui a conduit aussi le pape François à faire un acte de contrition tout à fait exceptionnel en 2017, Yvonique de Noël.
Oui, alors effectivement, là encore, le pape François, je dirais, a essayé de d'abord de reconnaître ce qu'ont été les erreurs de l'Église, du Vatican, et de repartir du bon pied avec le Rwanda. Effectivement, le Rwanda, où vous aviez une très forte majorité de catholiques, aujourd'hui, le catholicisme a beaucoup régressé parce que il y a eu un aveuglement terrible au moment du génocide rwandais. L'opposition Hutu, Tutsi, a été fabriquée par les Pères Blancs, belges pour beaucoup, pour des raisons d'histoire coloniale. Et après avoir soutenu les Tutsis, il y a eu un renversement qui est un peu long à expliquer, mais en gros, on s'est mis à promouvoir les Hutus. Et donc, après l'indépendance, ces Pères Blancs voulaient être le plus proche possible du pouvoir. Mais il y a eu une complicité avec les génocidaires qui a été terrible et une remontée d'informations très déficiente. C'est-à-dire que, sur le moment, Jean-Paul II n'a pas vu, il n'a pas compris ce qui se passait. Alors, il était peut-être lui-même affaibli, mais ça n'explique pas tout. Il y avait du monde autour de lui. Et ensuite, après le génocide, il y a eu des protections contre des religieuses et des religieux complices de génocide. Donc c'est une affaire assez lourde qui a heureusement été reconnue par François.
Et la question pour terminer, Constance Colonna, Césarie, très rapidement, la vie privée des prêtres, phénomène qui a constitué la plus forte vulnérabilité exploitée par les services étrangers pour manipuler l'Église.
Oui, bien sûr. Évidemment, puisque c'est une faiblesse qui existe dans l'Église, qui a des affaires. Alors, quel que soit le nom qu'on leur donne, ça peut être le lobby gay, ça peut être le simple prêtre homosexuel, la thèse de Frédéric Martel qui est véritable, que on cachait souvent les familles italiennes, cachaient leurs fils homosexuels dans l'Église. Donc ça a fabriqué plus d'homosexualité dans l'Église qu'ailleurs, sans doute. Et là, on le voit, le lobbying, justement, pour essayer de faire sortir des casseroles sur les papabiles du prochain conclave que finance dans des rapports que financent des Américains sur l'opération Red Hot Report. Les Américains mettent de l'argent, mettent le paquet pour savoir si tel ou tel cardinal n'est pas corrompu dans tel ou tel scandale. Donc on va s'attendre à un conclave très dur.
Merci Constance Colonna Cesari. Je rappelle que vous êtes journaliste, réalisatrice, spécialiste de la diplomatie du Vatican et auteur de « Dans les secrets de la diplomatie vaticane » paru aux éditions du Seuil. Et Yvonique de Noël, historien, éditeur, spécialiste du renseignement, qui vient donc de publier « Les espions du Vatican » aux éditions Nouveau Monde. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À très bientôt.